chance qu'on sème. Bienvenue à Une chance qu'on sème. Je m'appelle Pierre-Luc Houde et je suis toujours et encore en compagnie de Pierre-Antoine Gilbert. Salut PA.
Salut Pierre-Luc.
Aujourd'hui, on reçoit Danny Bouchard. PA, c'est un gars que tu connaissais avant qu'on l'interviewe, je pense. Hein?
Oui, ça fait quelques années qu'on se connaît, puis je trouve ça complètement génial ce qu'ils ont créé, lui et sa conjointe Cynthia et un de leurs amis qui est un maraîcher d'expérience, Vincent, l'Académie potagère, qui est en fait un cours en ligne où on peut apprendre toutes les méthodes de jardinage de A à Z, mais tout ça est influencé par les bonnes pratiques, les bonnes techniques issues du maraîchage. Donc, on est encore dans l'optique de professionnaliser un peu le secteur dans le but d'avoir des super bons résultats. Fait que suivez-les, c'est vraiment intéressant ce qu'ils font. Puis pour ceux et celles qui suivent l'émission sur TV5, sur UniTV, c'est plus qu'un jardin. Écoute, c'est une production là, hallucinante. Là. Puis Danny, ben, il co-anime cette émission-là avec brio. Fait qu'il y a des super bons trucs pour nous autres. N'hésitez pas à le suivre, même à suivre ses pages Facebook, Instagram. Il est quand même généreux de ses trucs, là, même si on n'est pas inscrit officiellement à sa formation.
Ouais, puis même si il y a de la difficulté à être sulfureux en disant une chance qu'on sème, c'est quand même un gars qui connaît ça.
Ah, tu l'as travaillé. Ben c'est Danny, fait qu'il est fidèle à lui-même, puis écoute, il sait faire des carottes, il sait faire des choux-fleurs, tu sais, je peux pas dire ça de tout le monde là, dont mon co-animateur. Fait
que, c'est ça. Il est capable d'être sulfureux l'animateur, mais il est pas bon en choux-fleurs. Merci à notre partenaire principal, le Réseau des fermières et fermiers de famille, qui nous accompagne dans cette belle aventure de la saison 2 de Une chance qu'on sème. Ben, je dis saison 2, mais en vérité, moi, ça fait des années que ma fermière de famille m'accompagne dans mon jardin. À chaque année, je me fais bouffer mes poireaux par la teigne. Fait que je vais voir ma fermière de famille, puis j'achète ses légumes, ils sont parfaits.
Bon, enfin une bonne raison de pas suivre mes conseils. Ça va te donner l'occasion de rencontrer la personne qui fait pousser tes légumes bio et locaux. Mais je suis curieux, comment t'as fait pour la trouver, ta fermière de famille?
Ben, j'ai été sur le site du Réseau des fermières et fermiers de famille, au fermiersdefamille.com. Puis là, tout de suite, il y a une carte qui me dit quels sont les membres du réseau les plus près. C'est full techno. Là. C'est la nouvelle façon d'acheter des légumes bio.
Ben, c'est pas tout à fait nouveau. La RFF soutient les maraîchères et les maraîchers depuis 25 ans. Ils sont maintenant au moins 150 fermières et fermiers de famille, de Ottawa à Moncton, en passant par le lac Saint-Jean et Victoriaville. Tu vas pouvoir faire ta poutine avec des patates de Victo.
Ah, c'est génial, ça, parce que ça permet aux consommateurs de se trouver un maraîcher bio et local, puis ça permet aux fermières et fermiers de rejoindre l'assiette du monde. C'est une belle histoire dans laquelle tout le monde sème.
Oh!
Hey, PA, j'ai découvert quelque chose de vraiment intéressant, ça s'appelle Fertifras.
What the frass?
Non, Fertifras, connais-tu ça?
Non, ça sonne comme un engrais à base de déjection d'insectes élevé par tricycle à Montréal, 100% bio, 100% local, mais non, je connais pas ça.
Mais là, tu me niaises-tu, c'est exactement ça. Ça a un NPD de 3-3-2.
NPK, PL.
OK, PA, NPK. Et 3-3-2, c'est-tu aussi bon que 20-20-20?
Ben, c'est bien mieux comme produit. Premièrement, c'est naturel, c'est certifié biologique, c'est riche en matière organique, ça nourrit donc le sol, pas juste la plante.
Non, mais c'est quoi l'intérêt? Moi, c'est pas du sol que je veux faire pousser.
C'est la même différence que juste manger des pilules ou manger un bon repas complet. En plus, tu peux aussi en donner à tes plantes d'intérieur. Tu l'as trouvé où, ton Fertifras?
Sur le site de fertifras.com, mais je sais qu'il y en a au centre jardin proche de chez vous.
Cool!
J'ai hâte de voir la frasse que tu vas faire quand tu vas voir la grosseur de mes tomates.
Une chance qu'on sème. Une chance qu'on sème.
T'es où dans le monde présentement, Danny?
Je suis à Saint-François-Xavier de Brompton, juste au nord de Sherbrooke.
OK, ah, t'es pas très loin de nous autres. Puis je suis curieux de savoir, tu fais quoi aujourd'hui en tant que maraîcher à part des podcasts?
D'abord, je pense que je me suis fait enlever mon épingle de maraîcher là, récemment. Je suis rendu jardinier.
Ah, OK. Ah. Donc, tu sais quoi la différence?
La différence, c'est que je produis pas de légumes pour commercialement. Puis, je fais un jardin personnel. Je pense que ce serait ça la différence, à mes yeux.
Puis tu fais un jardin personnel pour toi puis pour d'autres mondes ou juste pour toi?
Pour moi, ma blonde, tu sais, pour nous autres. Puis là, on en fait plus parce qu'on en fait pour comme deux familles puis des extras pour famille et amis quand ils passent, là. Mais en fait, la seule raison pourquoi j'ai dit que je m'auto-enlève l'épine de maraîcher, c'est pour... par respect pour mes collègues maraîchers qui, eux, font le hard work all day, every day. Là. En sens que moi, maintenant, je fais du travail plus de formation, d'éducation. C'est beaucoup plus intellectuel que manuel. C'est beaucoup plus à l'ordinateur, en fait, mon travail. Malheureusement, en fait, j'aimerais, à terme, j'aimerais ça trouver un équilibre.
Puis il est grand comment ton jardin personnel, pour le fun?
Notre jardin, il mesure 50 pieds par 40 pieds cette année, donc près 15 mètres par 12 mètres. On travaille en planche permanente de 75 cm, un peu comme le bio-intensif dans le maraîchage. Puis, mais nous, on segmente nos planches pour que ce soit plus facile à la planification. On la morcelle en petites sections.
C'est quoi l'intérêt de séparer la longueur de la planche en plusieurs morceaux?
Ce qui est intéressant, c'est d'avoir un standard dans son jardin. C'est-à-dire un standard au niveau de la largeur de sa planche. Ça permet d'utiliser certains outils, des grelinettes, etc. Ça permet de, enjamber. On connaît un petit peu peut-être les raisons à ça. Mais il n'y a pas juste le standard au niveau de la largeur que je trouve intéressant, il y a le standard au niveau de la longueur de la planche. Fait qu'en maraîchage commercial, c'est utilisé quand même souvent dans le bio-intensif, ça va être 100 pieds ou 30 mètres. Maintenant, dans le jardinage à la maison, je trouve que c'est intéressant de se donner aussi un standard qui va être beaucoup plus court que 30 mètres, évidemment. Chez nous, on a décidé d'y aller pour 5 mètres. Je pense que c'est parce qu'on a divisé la dimension initiale qu'on avait, qui était de 15 mètres en 3, on l'a dit en 3 sections. Mais ça pourrait être plus petit, ça pourrait être 3 mètres, ça pourrait être 2 mètres, ça pourrait être 1 mètre, ça pourrait être 4, c'est dans le sens, ça pourrait être la dimension qui fit avec les gens. Mais il y a aussi des outils qui sont de plus en plus personnalisés, comme des longueurs de filet, des longueurs de bâche, certains équipements qui peuvent justifier d'aller vers une certaine longueur ou une autre. Puis ensuite, maintenant, pourquoi je disais que c'est aidant au niveau de la planification culturelle, c'est que, comme je disais, mon jardin, il fait 15 mètres de long. Donc, les planches font, au total, là, c'est 15 mètres de long. Mais si ça, c'est mon unité, 15 mètres, je vais toujours me ramasser à avoir des fractions de 15 mètres pour dire combien je fais de choux, combien je fais de carottes, combien je fais de ci, de ça. Donc là, en faisant en sorte que mon unité de mesure, c'est pas 15 mètres, c'est 5 mètres. Ben maintenant, je peux dire, ben je fais une planche de carottes au lieu de dire je fais un tiers de planche de carottes. Donc au lieu de toujours travailler avec des tiers, puis avec des quarts, puis avec des cinquièmes, ben là je me ramasse à travailler avec des 1, puis avec des une demi, puis avec des... Tu sais, je me ramasse avec quelque chose qui est un peu plus facile à manœuvrer. Et là, ça m'aide au niveau de la planification culturelle. Parce que c'est ça, je sens que c'est plus facile pour moi de travailler avec des demi qu'avec des cinquièmes.
Puis, y a-tu des légumes qui t'amènent à faire des deux, des trois?
Absolument, exact. Comme, mettons, des tomates, on fait beaucoup de tomates italiennes, on fait le canage de nos sauces tomates pour tout l'hiver. Donc là, on fait trois planches de tomates italiennes, mais ça fait un total de 15 mètres, donc 3 fois 5, 15. Les carottes aussi, les oignons, on fait deux planches d'oignons, donc ça fait 10 mètres d'oignons. Les pommes de terre, cette année, on fait deux planches et demi. Donc, on fait 12,5 mètres.
Bon, un et demi. Ça marche pas, ton affaire.
Mais c'est tout le temps... Moi, c'est la partie que j'aime, tu sais, c'est d'essayer de coller du moins notre consommation à notre production. Ça prend du temps, là, un petit peu, à savoir qu'est-ce qu'on mange, puis en quelle quantité, puis à quel moment. Mais après, là, c'est de plugger ça dans une carte culturelle qui fait du sens, puis c'est un petit peu le jeu de Tetris, là. J'aime bien ça jouer à Tetris.
Fait que t'as pas un jardin en forme de mandala, là. C'est ça qu'on comprend, là. Moi, j'imaginais ça super artistique, ton affaire, là.
Ben, l'art cartésien, ça existe aussi, là.
L'art cartésien, ouais. C'est bon.
Ouais, ouais. Mais c'est assez linéaire, c'est assez cartésien. Y a plusieurs façons de faire des jardins, tu sais. Mais chez nous, c'est assez droit, c'est assez... organisé. Puis c'est comme ça que j'ai appris à travailler en maraîchage. J'ai apprécié travailler comme ça en maraîchage. Je pense que ça colle bien aussi à qui je suis en tant que personne, là, juste dans ma vie. J'aime ça organiser les choses. Puis je pense que le côté, disons, créatif, comme tu dis, artistique, là, c'est peut-être quelque chose que je maîtrise un peu moins. Là. C'est moins mes forces, mettons, là, si j'analysais mes forces, mes faiblesses. Là.
La vue d'ensemble reste magnifique quand même au final. Tu sais, quand le feuillage diversifié de toutes ces cultures-là, parce que tu dois en faire facile 30-40 là, au jardin. Là.
Absolument, ouais, on fait 40 légumes. Mais c'est sûr, moi je trouve ça magnifique. Puis le jardin, là, moi, je trouve que c'est magnifique. Moi, je trouve qu'il y a un esthétisme dans l'organisation. Puis c'est clair, là, on ouais. prend des prises de vue de notre jardin, c'est magnifique, là. Puis moi, je pense qu'avec plus d'organisation, on peut avoir plus de rendement aussi, plus de productivité, plus de légumes au mètre carré. Puis c'est un peu l'approche qu'on veut enseigner aux jardiniers, là. C'est un petit peu... c'est de dire, vous êtes capable de récolter davantage dans votre jardin. C'est juste que les standards que vous connaissez, c'est pas les bons, dans le fond. Puis c'est un peu de ramener les standards de rendement du maraîchage, mais de les mettre dans les mains des jardiniers, puis de dire, votre plant de tomate, là, vous pensiez qu'il pouvait vous donner tant de tomates, mais dans le fond, il peut vous en donner deux fois plus si vous faites A, B, C. Fait que peut-être que t'as pas besoin d'avoir deux fois plus de plants de tomates, peut-être que t'as juste besoin d'avoir des plants de tomates qui sont en mesure de te donner plus de tomates.
Ouais, puis c'est valable, ça, on peut le transposer à l'échelle agricole. Si on est capable de sortir plus de rendement au mètre carré, ben on est plus efficace, puis l'empreinte environnementale, à la limite, elle peut être moins grande, là, d'un sens, là.
Ben ouais.
Moi, je trouve que ton épingle de maraîcher, en tout cas, elle est peut-être rendue tatouée, là, en tous tes vêtements, là. Parce que finalement, ce que tu apportes, c'est ça. Moi, c'est la beauté de l'Académie potagère et de tes interventions. C'est la sauce maraîchère, mais appliquée finalement à l'échelle d'un jardin, puis les résultats sont hot, là. Ça marche, là.
Ah, ça marche au bout, là. Les gens qui... Il n'y a pas juste chez nous que ça marche, là. Chez nous, ça marche. Quelqu'un pourrait dire, ah, ben, c'est facile. Tu sais, vous avez un bagage, etc. Mais les gens qui suivent... Nos techniques, les gens qui suivent nos formations, les gens y en reviennent pas, en fait, là. Moi, c'est ça que je trouve beau à voir, là, c'est que les gens, ils tombent en bas de leur chaise. Ils disent, ben voyons donc.
Ça fonctionne.
Je pensais jamais que je pouvais récolter comme ça dans mon jardin.
C'est malade. Moi, ça, en tout cas, je trouve l'idée de l'Académie potagère, tu sais, ça germait comment dans ta tête puis dans celle de tes partenaires?
L'idée, elle a germé parce que quand j'ai quitté la ferme des 4 temps, il y a eu une année où j'ai pas fait de jardin. J'avais un autre projet, un projet événementiel. Puis cette année-là, j'ai pas du tout touché au jardinage. Et là, j'ai senti un grand vide dans ma vie. Imaginez-vous, là, faire une année pas de jardin, là, voyons donc.
Non.
En tout cas, non, j'aime mieux pas en parler.
Non.
On aime mieux pas en parler, c'est tabou, ce sujet-là.
C'est impossible.
Mais bref, j'ai pas fait de jardin. Ça m'a vraiment manqué. Donc là, l'année d'après, je planifie encore travailler pour l'événement. Puis, mais je me suis dit, on va faire un jardin. On va faire un jardin juste pour faire un jardin, pour s'amuser, pour manger, puis etc. Donc là, avec ma copine Cynthia, on a décidé de faire ça. Puis finalement, bon, mars 2020 arrive, on le connaît, là, pandémie, tout est fermé. Ben moi, mon événement aussi s'est fait annuler, parce que tous les événements se sont fait annuler. Donc là, tout d'un coup, je me retrouvais... sans occupation. Puis cette idée-là existait déjà un peu, tu sais, d'accompagner les gens qui font des jardins à la maison pour qu'ils aient plus de résultats, disons. Puis là, on faisait déjà un jardin, puis là, on s'est dit, ben là, on va... J'ai du temps, je vais pas me tourner les pouces, je vais virer fou si je fais rien. Let's go, on part, puis on va documenter ce qu'on fait dans notre jardin. Et on sait qu'il y avait un engouement vraiment énorme, il y avait beaucoup de gens qui voulaient se lancer. Puis moi, je sais que dans une vie, tu sais, si tu fais un jardin, mettons que tu as un intérêt de faire un jardin, tu as cette étincelle-là qui te part, puis là, tu te dis, let's go, cette année, je fais un jardin. Ben, c'est sûr que si ça se passe pas bien, il n'y a rien qui fonctionne, les chances que tu le fasses une deuxième année sont quand même moindres. Comme... Puis si tu le fais une deuxième année, puis la deuxième année aussi, ça marche pas bien, ben peut-être que tu vas te dire, je vais faire une autre chose à la place. Je ferai pas de jardin. Pour plein de raisons, c'est pas pour moi.
Je vais m'acheter un F-150 puis je vais faire le tour du Canada en brûlant du gaz.
Pourquoi pas, tu sais, exactement. Fait qu'en même temps, moi je voyais ce moment-là en me disant, crime, il y a beaucoup de gens qui se démarrent, faut que ça marche.
Ouais.
Parce que si ça marche, ils vont le refaire.
Ouais.
Si ça marche pas, il y en a beaucoup qui vont pas le refaire.
Ouais.
Fait que tu sais, pour que un petit peu cette occasion-là, que tout le monde a passé beaucoup de temps chez eux à la maison, avoir du temps pour passer du temps sur son terrain, etc., mais que ça se pérennise, tu sais. Puis la façon de faire, ben, c'était d'accompagner les gens en les guidant. Là, on a fait des vidéos à chaque semaine sur Facebook qui montraient l'évolution de notre jardin. Après ça, en même temps, on a décidé de monter une formation qui était plus complète, là, qui était vraiment intégrale, puis qui montrait une séquence de A à Z de toute une saison au jardin. Puis fait que ça a un petit peu émergé de là. Ça a émergé de une perte d'emploi, mais en même temps d'un désir d'outiller les gens. Puis à un moment où il y en avait vraiment besoin.
Ben oui. Ça marche là, finalement. Là, tout de récolter de l'amour. Là. Les gens qui suivent ça puis qui voient le résultat, c'est du monde heureux. Là.
Ah, les gens sont vraiment heureux. On reçoit tellement de beaux témoignages, de beaux messages. L'année passée, au mois de septembre, là, les photos qu'on recevait des tables de récolte, là, puis les gens avec les sourires, puis les gens qui en reviennent pas, puis qui sont des fois des gens qui se disent c'est mon premier jardin, t'sais, voyons donc, t'sais, c'est mon première fois que je fais ça, puis regardez ce que j'ai réussi, puis des gens qui disent hey, non, moi ça fait longtemps que j'ai un jardin, mais jamais que j'ai réussi à avoir ces résultats-là. J'ai jamais réussi à faire des poireaux de ma vie. Là, je regardais ça, les poireaux, les longs fûts blancs. T'sais.
T'as reçu beaucoup de fleurs. As-tu reçu des pots aussi? C'était-tu de ta faute des fois s'il y avait de la bébite à patates?
Des fois, j'ai reçu des tomates aussi, là, un peu en pleine face.
Ben, c'est sûr, il y avait des surplus, le monde. Fait que ça avait quoi faire avec, à un moment donné. Fallait... Si t'envoyais des pots, ils étaient tannés de canner. C'est clair.
C'est clair, mais en même temps, d'avoir cette proximité-là avec les gens, ça nous permet de répondre encore plus à leurs besoins. Tu sais, on a vu à certains moments beaucoup de gens avaient des questions sur les terreaux à semis, puis là ça c'est toujours des périodes comme ça dans l'année là, mais les gens ils ont beaucoup de questions sur les terreaux à semis, puis là finalement on se rend compte qu'il y a un manque à cet endroit-là, puis là on vient le combler, on vient rajouter des capsules, on vient clarifier les informations. Fait que je pense que c'est, oui, on reçoit beaucoup de fleurs, mais on reçoit beaucoup aussi de questions. Puis ça nous permet de comprendre où est-ce que les gens ont de la difficulté, puis ça nous permet de les aider davantage.
C'est clair, mais tu sais, ça revient souvent des problèmes de base qu'on voit beaucoup. Là. Tu sais, l'éclairage, je pense, au semis, c'en est un bon exemple. De respecter des calendriers aussi, de planification de semis, c'en est un autre bon exemple. C'est pas toujours facile, mais c'est comme tu le mentionnais tantôt, A plus B plus C, ça t'amène à avoir des résultats. Moi, Pierre-Luc, il passe de A à Z, là. Puis j'essaie de l'aider, là, mais à un moment donné, des fois, il m'écoute plus, là. Fait que c'était... Nous, tu vois, dans la même veine, mais on n'en a pas fait une belle business ou une belle école, là, je pense, comme t'as créé avec l'académie. Mais l'idée du podcast, finalement, c'était ça, là. Quelqu'un qui décide d'essayer d'aller plus loin puis de comprendre un peu les choses parce qu'il y a énormément d'informations à digérer là-dedans. Puis je pense que c'est juste le gang qu'on se dit souvent, lisez à l'endos de votre sachet de semences, là. On dirait que le monde, il skip des étapes des fois ou qui sont pas conscients de tout ce qu'ils ont sous la main comme information. Là.
On l'attendait un peu, les gars, là, mes deux beaux petits cerveaux d'amour. Là. Moi, je pense que l'instinct a quand même une grande part à prendre dans l'élaboration du jardin. Tu sais, je peux pas m'empêcher de connecter le plaisir dont tu parlais, Danny, tantôt. Il faut que ça soit le fun, il faut que ça marche, tout ça, à l'instinct. Toi, Danny, qu'est-ce que t'en penses? Il y a quelle place l'instinct là, dans l'élaboration? Tu sais, tu parles de planification culturelle. Je n'avais jamais entendu ces mots-là de ma vie. Mais c'est ça, donc, ma question. Quelle place a l'instinct là, dans l'élaboration d'un jardin à la maison?
Ben, je crois que ça... Je pense qu'il y a de la place à l'instinct, absolument. Il y a de la place pour l'expérimentation. Il y a de la place pour ça. Mais après, c'est en quelle proportion dans son jardin qu'on veut offrir cette place-là. Puis je pense que ça va dépendre de chaque individu, de chaque personne, de votre tolérance au risque. C'est sûr que dans les expérimentations, se fier à son instinct, d'après moi, il y a plus de chances d'erreur que de chances de réussite parce que l'agriculture, le maraîchage, je veux dire, il y a un bagage collectif qui est incroyable, mais que si on n'utilise pas, on est voué à faire les erreurs que les gens avant nous ont déjà fait et qui peuvent nous partager la réponse, tu sais. Mais on peut faire des expérimentations, faisons-les, absolument. Mais moi, mon approche, c'est de dire, je vais commencer avec une méthode qui fonctionne, puis je vais expérimenter par-dessus celle-ci. Mais il y a moyen aussi de dire, dans cette section-là de mon jardin, j'utilise j'essaie de suivre un genre de cadre, puis dans cette section-là, là, on expérimente, puis on s'amuse. Puis là, ben, cette proportion-là, ça peut varier selon votre envie d'expérimenter. Si votre envie d'expérimenter est plus grande que de, disons, vous assurer d'avoir une certaine récolte au bout de la ligne, ben, expérimentez sur une grande partie de votre jardin. Mais au contraire, c'est si vous dites, ben, moi, j'aimerais vraiment ça avoir des carottes pour l'automne. ben peut-être faites un semis de carottes selon une méthode clé, tu sais, une méthode qui fonctionne, puis de l'autre côté, tu sais, expérimenter. Puis je pense qu'une règle du pouce, là, d'habitude en maraîchage, c'est ça, c'est au niveau des variétés, là, mais c'est d'essayer d'expérimenter juste un genre de peut-être 20% maximum, là, je sais pas c'est quoi PA, là, c'est quoi, ouais, tu dirais aux gens?
Autour de
10%.
10%. 20% c'est ambitieux, mais c'est faisable quand même aussi, là, tout dépendamment de l'espace qu'on a pour ça, là.
De quoi c'est 10-20% là?
De décès, finalement, tu sais, comme l'année passée, Pierre-Luc, t'as essayé de faire des transplants de carottes, là.
Ouais.
Ben, faut pas que ça soit 100% de ta production de carottes qui passe par des transplants, là.
C'est, dans des rouleaux de papier cul. Il y avait beaucoup d'esthétisme.
Oui, c'est oui, oui. Beaucoup d'instinct. Hein.
Mais c'est ça, fait que si on se dit, ben ça, c'est encore une fois, c'est peut-être un cadre qui est trop rigide pour certains, mais si on se dit, disons qu'on laisse 10% de notre jardin en expérimentation, parce que là, on essaie différentes choses, puis là, on prend des notes, puis on garde ce qui fonctionne, on en laisse ce qui fonctionne pas. Moi, je trouve que c'est super. Mais si l'on se fie à notre instinct pour se dire combien de place dans notre jardin on laisse à notre instinct, là, d'après moi, c'est beaucoup d'instinct.
Ouais, c'est vrai. Puis ça donnait des résultats, c'est ça. On se rend compte qu'il y en a qui ont plus d'instinct que d'autres. Fait que c'est... ou de laisser aller.
Ben, j'avoue, moi, quand j'ai commencé à apprendre le piano, j'ai commencé tout seul. Je me suis acheté un piano, j'ai commencé à l'apprendre tout seul. Puis j'ai réussi à monter une toune de Beethoven quand même. C'était une belle toune. Sauf que après 3 mois que ça m'a pris pour monter à la toune, j'avais des tendinites dans les poignets puis dans les avant-bras, puis j'ai été obligé d'arrêter de jouer du piano pendant à peu près 1 an et demi, tu sais. Fait que c'est bon, je vais ranger mon instinct dans mon 10%, puis je vais exploiter vos connaissances pour le 90%. Puis ma prochaine question, là, c'est pour faire un lien avec le nom de notre émission, Une chance qu'on s'aime. Maintenant qu'on a parlé de l'instinct, est-ce que l'amour, lui, il a sa place dans mon jardin? Parce que moi, je le sème beaucoup, mon jardin.
Ben, tellement, là. En été, là, il n'y a pas une journée où je ne vais pas dans mon jardin. Je veux dire, je pense que passer du temps dans son jardin, c'est lui donner de l'amour, c'est le regarder, c'est de voir l'évolution des plants. L'été, ça passe tellement vite. Moi, j'ai envie... je pense que l'amour, c'est d'avoir... c'est pas care, mais c'est quoi le mot en français? C'est d'avoir...
Prendre soin,
exact. Prendre soin de des plantes sans aller leur donner des petits becs avant de se coucher, là, mais aller les voir. Moi, c'est de cette façon-là que je donne de l'amour à mon jardin, c'est d'aller le voir, de regarder l'évolution, juste de passer du temps dans son jardin. Et nous, on donne à notre jardin, mais notre jardin, il nous donne tellement. Là, juste aller s'asseoir à côté de son jardin puis le regarder, là, c'est-à-dire, c'est tellement des beaux moments. Juste là, mon jardin, en tout cas... J'ai hâte d'y aller, là, tu sais. Ça fait longtemps qu'on est en dedans, puis qu'on...
Ben, tu devrais voir PA quand il fait du désherbage, là, puis que là, il regarde la terre, là, puis là, il joue... Il a quasiment envie de s'allumer une cigarette puis de se coucher tellement qu'il a aimé ça, là, tu sais. Il dit, ah, check Pierre-Luc, là, mon jardin, là, il respire, ou je sais pas trop, il est heureux, puis quand... Mon Dieu, il voit... C'est comme si son jardin avait la chair de poule, là, puis ça y faisait de quoi, là.
Ben, écoute, moi, je caresse mes oignons tellement que je les aime. Eux autres, ils s'en foutent, là, ce qu'ils aiment, c'est le compost que je leur donne, là, fait que... C'est pas quand j'ai flat, mais ça me fait du bien. Puis c'est quand c'est beau en plus, là on l'aime encore plus. Là. C'est important. C'est bien dit, ça, de l'amour au jardin. Ça fait partie des éléments clés pour que ça pousse une plante, peut-être. Là. Si tu ne l'aimes pas en partant, tu n'auras pas de résultat. Là.
PNKA. Il devrait avoir le 4e élément.
Ouais. NPK. Tu vois, tu mélanges encore.
NPK. Je suis allé d'instinct.
C'est ça. Il y en a qui fertilisent, hein, de cette façon-là, tu sais, d'instinct. C'est quoi qu'il m'avait dit un élève à un moment donné? Lui, c'était des prières, la fertilisation pour son producteur. Puis moi, je savais pas s'il récoltait des sermons ou des miracles. Fait que c'est ça. On le sait pas. Faut savoir comment utiliser tout le bagage de données puis de pas réinventer la roue, là. C'est ça que tu nous dis, Danny. Puis c'est vrai que ça marche dans ce temps-là, là.
Ben, on a plus de chances de réussite, disons. On met les chances de notre côté. On peut appliquer ça à n'importe quel autre milieu qui serait pas le milieu du potager. Mais disons, je veux dire, les gens qui connaissent les voitures, les gens qui connaissent les maisons, les gens qui connaissent l'électronique, les gens qui connaissent ci, ça, tu sais, je veux dire, tu peux décider d'apprendre toi-même, tout seul, à genre remonter une transmission, là, si ça te tente, là, à, avec aucune aide, là, mais peut-être que ça va te prendre, peut-être que ça va te prendre 10 fois plus de temps, puis que tu y arriveras même pas quand même, tu sais, mais pourquoi,
au final,
tu sais,
ouais,
pourquoi ne pas,
ouais,
utiliser le savoir des autres, genre, puis essayer de bâtir là-dessus pour aller plus loin. Je pense que c'est, pour moi, c'est ça la recette gagnante. Puis c'est un petit peu aussi de, d'avoir de l'humilité là-dedans, puis de se dire, dans le fond, je sais que je ne sais pas et je veux apprendre, tu sais, mais sans se dire, moi, je vais découvrir ce que personne n'a découvert avant moi. Ben là, attends un petit peu, là, l'agriculture, je veux dire, on parle de l'agriculture, là, je veux dire, ça fait depuis que qu'on s'est sédentarisé qu'il y a de l'agriculture, là. Ouais. Il y en a du savoir, là. C'est profond, là.
Ça se transmet bien, dans le fond, c'est ça. C'est de l'apprentissage, des connaissances, puis de l'expérience, là.
Ah, vraiment?
Ça, ce qui t'a amené en agriculture, c'est quoi, au juste, là? T'as fait tes premières armes déjà aux 4 ans ou t'avais fait autre chose avant?
Moi, j'avais pas fait grand-chose avant. J'avais travaillé un petit peu... J'avais fait du woofing à gauche, à droite, un petit peu. Mais c'était très limité. Puis, j'ai pas mal fait mes premières armes à la ferme des Quatre Temps, où j'ai été vraiment, vraiment chanceux, en fait, parce que quand je suis arrivé, j'étais dans une équipe avec des gens qui étaient vraiment expérimentés, qui avaient fait des études avec toi au cégep de Victo, qui avaient des expériences vraiment variées depuis plusieurs années. Puis, je me suis ramassé à travailler avec eux, avec elles, pendant plusieurs années. Avec Jean-Martin, mm-hmm, qui était là, puis qui avait comme créé ce projet-là, qui était vraiment ambitieux, on va dire. Là, c'était vraiment ambitieux.
Ouais.
Puis,
ben, t'étais là au tout début, là. C'était le commencement, là.
C'était la première année.
OK, c'est ça.
Mais moi, j'arrivais là avec beaucoup de naïveté, puis j'avais aucune idée dans quoi je m'embarquais. Mais finalement, j'ai tellement appris parce que j'étais entouré de gens qui en savaient tellement plus que moi, puis qui étaient aussi d'accord pour partager, tu sais, cette information-là. On habitait tous dans la même maison.
Mm.
C'était une expérience assez intense, mais aussi très enrichissante.
Mais tu partais des manifs du printemps érable, c'est quoi? Puis t'es dit, moi, je m'en vais en campagne. T'as eu l'appel?
J'ai fait un voyage en Asie pendant 6 mois à peu près, où j'étais en transition là, après mes études. Là, une histoire un peu classique, là.
Ouais,
ben oui, puis j'ai la même histoire.
Ben, c'est ça, je pense qu'on est plusieurs, là. Finalement, j'ai fait du woofing à une place, puis c'est là que j'ai eu mon déclic, parce que c'était la première fois dans ma vie où est-ce que je travaillais avec mes mains, où je travaillais dehors, où est-ce que le travail me demandait à la fois de réfléchir, donc un travail qui était à la fois intellectuel et à la fois manuel. C'était comme la première fois où je conciliais les deux. J'étais dehors, je me rendais compte que depuis toutes mes études, depuis toute ma vie, j'avais tout le temps été juste en dedans. Puis j'avais jamais eu à travailler avec mon corps. Puis là, je découvrais ça, puis j'étais comme, oh my God, c'est ici que ça se passe. C'est ça, tu sais. Puis je me disais pas nécessairement, ça va être ça pendant 30 ans. Je me disais, mais maintenant, ça va être ça. Comme... Là, c'est ça que j'ai envie.
Ça se passe.
Là. Pendant un an, pendant 2 ans, pendant... Tu sais, mais là, je veux faire ça. Puis à mon retour, ben, j'ai fait des démarches pour me trouver un emploi. Mais tu sais, moi, je connaissais pas du tout le milieu maraîcher bio du Québec. Je connaissais pas les intervenants, je connaissais pas les institutions, je connaissais pas les fermes. Je me suis inscrit sur des groupes Facebook là, de jardinage, puis d'agriculture urbaine. Puis j'ai vu passer l'annonce de la ferme des Quatre Temps, puis j'ai appliqué. Puis finalement, j'ai été pris, tu sais, j'ai été pris comme quelqu'un s'est désisté, puis finalement j'ai été un peu insistant avec Jean-Martin, puis tu sais, j'avais pas le profil, là.
Non, mec.
J'avais pas le profil.
My God, mon gars, depuis t'as fait du chemin, là.
Ouais, mais je pense que j'avais le profil parce que j'avais envie d'apprendre, mais j'avais pas le profil parce que j'avais les connaissances,
t'sais. Ouais. Ouais. Mais tu sais, à un moment donné, c'est une combinaison. C'est sûr que le savoir, on en a besoin, là, puis c'est ça que tu mets de l'avant. Mais il y a du savoir-être aussi à un moment donné qui rentre dans la balance. Parce que le maraîchage, c'est des petites équipes soudées serrées. Là. Fait que si t'aimes pas travailler en équipe, dans ton jardin, tu peux être tout seul.
Absolument.
Ouais. Et plus important que ce qu'on fait, c'est avec qui on le fait. Là, c'est pour la persévérance puis l'enthousiasme. Là.
Mais t'avais-tu déjà fait un jardin avant ça, genre à l'université sur ton balcon ou...
Pas vraiment, tu sais, je pense que j'ai déjà fait des expériences ratées de fines herbes.
Dans ton garde-robe?
Même pas dans mon garde-robe, là, mais tu sais, peut-être un plant de basilic sur le balcon, là, mais j'avais pas fait de jardin. Je partais vraiment de rien, mais j'ai trippé, c'était super.
Ouais.
Je me suis donné à fond, tu sais, à un moment donné, des fois aussi... À certains moments dans ma vie, j'ai eu des déclics où je me suis dit bon ben est-ce que j'embarque ou est-ce que j'embarque pas, mais si j'embarque, j'embarque à 300%, tu sais, j'embarque pas, je vais pas juste me tremper l'orteil, tu sais. Puis je pense que l'expérience avec la ferme des quatre temps, ça a été à un moment donné quand j'ai décidé que j'y allais, ça a été juste ça, là, tu sais.
Ouais.
C'était 100% ça, puis toute mon énergie, mon attention, je lisais des livres, j'écoutais, je me suis mis à fond là-dedans, puis J'étais tellement heureux, là. T'sais, j'étais tellement bien.
En tout cas, t'es encore à fond là-dedans. Là, on a parlé de l'académie. On t'a vu dans l'émission Les fermiers, qui était vraiment génial. Moi, j'aurais aimé un fermier 3, là. Ça aurait été chouette. Mais maintenant, c'est plus qu'un jardin. Déjà, la deuxième saison. Fait que ça aussi, tu sais, c'est enlever un peu l'étiquette ou l'épinglette maraîcher pour mettre l'épinglette jardinier. Quel impact, tu penses, ça a sur un show comme ça au niveau... comment dire, des jardins domestiques, tu sais, ça doit en avoir un, là.
Ah, ça a un très grand impact. Je pense que les fermiers, ça a eu un énorme impact pour inspirer les gens à vouloir participer, à vouloir acheter des légumes d'ici, à vouloir rencontrer leurs maraîchers. Mais pour ce qui est de faire la chose, c'est accessible à très peu de gens.
Mm-hmm.
Puis, c'est-à-dire changer de métier, puis... etc. T'sais. Il y a des gens qui vont le faire, mais c'est pas à la portée de tous. Mais avec C'est plus qu'un jardin, ce qu'on explique, c'est que si vous voulez faire partie du mouvement, vous n'avez pas besoin de changer de vie nécessairement, là. Vous pouvez faire un jardin chez vous, là. Puis ça, c'est tout aussi hot, là, t'sais, c'est tout aussi épique, là, t'sais. Moi, c'est ça que j'ai envie de partager aussi, c'est de dire... faire un jardin, c'est pour ça que, tu sais, je dis pas « Ah, je transige mon épinglette de maraîcher pour jardinier, puis j'ai une larme à l'œil, là. » C'est comme au contraire. Moi, je suis excité par ça. Je trouve que c'est extraordinaire, puis j'ai envie que les gens ils trouvent que c'est extraordinaire. Puis l'émission, ça amène ça. Non seulement ça inspire les gens à le faire, mais ça leur permet de le faire.
Est-ce que l'impact du jardinage domestique, c'est un impact qui est mineur, modéré, presque... négligeable dans la grande équation écologique où ça a vraiment un impact sérieux, puis tu sais, ça serait quelque chose qu'il faudrait à la limite encourager politiquement?
Après, il faut se demander c'est quoi les impacts qu'on vise, puis c'est où est-ce qu'on peut avoir le plus d'impact. Récemment, David Suzuki il disait que pendant grande partie de sa carrière, il a travaillé au niveau des grandes entreprises puis de la politique pour essayer d'influencer les choses, puis que finalement, à l'aube de ses 80 ans, il se rendait compte que le plus grand impact qu'il aurait pu avoir s'arrêtait auprès des enfants, puis s'arrêtait auprès de faire de l'éducation pour les enfants pour que les prochaines générations ensemble, collectivement, travaillent dans ce sens-là. Fait que,
exige ça aussi. Là, de
exige ça.
Des grandes compagnies.
C'est ça. Puis moi, je me dis, si les gens font des jardins à la maison, les enfants, ils naissent dans un environnement où il y a déjà un jardin à la maison. Je veux dire, il y a plein de manières qu'on peut mesurer un impact. C'est sûr qu'au niveau de l'autonomie alimentaire, peut-être que quelqu'un pourrait dire « ça sert à rien, c'est pas de même qu'on va se rendre autosuffisant au Québec ». Peut-être que c'est pas là qu'il y ait l'impact. Oui, il y a certaines familles qui arrivent à le faire, mais peut-être que c'est marginal. Mais peut-être qu'au niveau de... la sensibilité aux écosystèmes, l'éducation pour les enfants, vouloir s'alimenter mieux, vouloir cuisiner davantage, parce que là, quand t'as plein de légumes, tu sais, t'as travaillé tellement fort, tu veux pas qu'ils se perdent, fait que là, tu cuisines. Là, tu cuisines, tes enfants te voient cuisiner, tes enfants t'aident à cuisiner. Tu sais, il y a des impacts qui sont un peu plus difficiles à quantifier, mais moi, je crois qu'avoir un jardin, tu sais, puis là, je boucle la boucle avec un truc kitsch, là, mais tu sais, l'émission s'appelle « C'est plus qu'un jardin », mais finalement, c'est peut-être ça, tu sais, c'est que un jardin, c'est peut-être plus qu'un jardin, c'est aussi une cuisine, c'est aussi des habitudes de vie, c'est aussi de l'éducation pour les gens autour de nous. C'est plein de choses, mais ça commence par juste un jardin chez soi. Et finalement, l'impact est vraiment plus grand que ça.
Écoute, tu peux pas faire plus kitsch que moi puis Pierre-Luc. On a appelé notre balado une chance qu'on s'aime. Fait que, tu sais, on comprend ça puis on encourage ça. Moi, en tout cas, j'adore le show. La signature est magnifique. La signature visuelle, la prod, c'est écœurant. On pense souvent agriculture urbaine à quelqu'un sur son balcon à Montréal, mais la banlieue, il y a du monde qui y vit. C'est des gazons qui sont tondus, puis c'est des terres, on le sait, là, qui sont fertiles. Peut-être un peu plus argileuses.
Beaucoup de pelouseurs en banlieue.
De pelouseurs.
Des pelouseurs. En tout respect.
Oui, c'est ça. Fait que ça. En tout cas, ça se prête au jeu. Moi, j'avais déjà même dit à des élèves qui pourraient avoir des business, tu sais, d'entretien de jardin à domicile, comme il y a des business qui font de la tonte de pelouse ou de la taille d'arbre. Fait que après ça, c'est l'imagination collective qui est peut-être une limite. C'est sûr que les gens ils disent que quand les tomates au jardin sont prêtes, les gens achètent moins de légumes. Moi, je pense un peu comme toi que par l'éducation, si les gens ont été éduqués à bien manger des bons légumes, ben puis que finalement ça marche pas dans leur jardin, ben, ils vont se retourner vers des maraîchers, des maraîchères professionnels, puis d'aller l'acheter directement le plus localement possible. Fait que ça fait ça aussi, là. Mais on veut un pourcentage d'autosuffisance autant que possible dans notre assiette. Puis ça passe. C'est une des parties de la solution, finalement, le jardinage domestique.
Non, mais aussi, ça va teinter la relation avec ton maraîcher de famille, tu sais, qui lui a certainement, en tout cas en ce qui me concerne, les plus beaux céleri que moi. Puis maintenant, moi, quand je vais voir Joanie, là, qui chez qui j'achète mes légumes l'été, ben j'ai quelque chose à y échanger. J'ai une relation à entretenir avec elle plutôt que de juste y demander. Des questions banales, tu sais. Est-ce que toi, tu urines dans ton jardin?
C'est tout à fait vrai. Puis c'est vrai que ça aide à voir la vraie valeur des aliments, de pas voir un aliment juste comme son prix, mais c'est de voir tout le travail derrière, exactement comme que tu viens de dire. Tu arrives chez Joanie, puis tu vois ses céleris, puis tu dis « Oh my God, ils sont fous tes céleris, ils sont tellement beaux. » Peut-être que tu n'avais jamais vu ça avant. Peut-être que c'était juste une norme, un gros céleri puis un beau céleri. Peut-être que c'est un brocoli.
Ben peut-être que là, je vais apprendre la différence entre un céleri branche puis un céleri feuille. C'était plutôt ça qui m'était arrivé.
Ben oui, tu vas être capable de le dire à la personne à côté qui ne sait pas en tout aussi. Puis tu vas dire, ah non, attends un peu, Joanie, je vais lui expliquer, moi. Puis là, tu peux lui expliquer à l'autre personne à côté.
Danger. Danger. Moi, ça m'arrive souvent de me faire croiser dans la rue, là, puis « Hey, j'écoute ça, une chance qu'on s'aime, mais j'ai une question. » Oh, non, 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 non. Fais pas ça. Pose-moi pas de questions.
Ah là là, mais tu sais, c'est ça. Ça dépend de l'instinct. C'est cool si tu peux parler avec ta productrice, ta fermière de famille, finalement, pour qu'elle te donne des trucs. Parce que j'ai essayé de parler de transmission, moi, avec mon garagiste, puis j'ai rien compris, là. Fait que, aussi bien parler de carottes avec quelqu'un qui geek ses carottes comme moi, là. Fait que, c'est ça.
J'aimerais ça poursuivre cette question-là. Ça fait deux fois que vous faites des métaphores de transmission. Juste pour le fun, Danny, quels légumes on pourrait comparer à un changement de transmission, puis quels légumes, admettons, on pourrait comparer à un changement d'huile?
Wow!
L'un étant très difficile, l'autre étant très facile, c'est ça que je voulais dire.
Une chance que tu as précisé, parce que je ne savais pas, en fait, si le changement d'huile, c'était plus difficile que changer de transmission. Non, c'est une blague. OK, ben je dirais que le changement d'huile, c'est peut-être des radis, de la laitue. C'est un peu à la portée de tous. C'est possible d'avoir des très belles laitues, des très beaux radis. Puis là, la transmission, j'irais avec... on dirait que j'ai envie d'y aller avec des poireaux ou avec peut-être des tomates. Mais des tomates, c'est facile d'en avoir, mais est-ce que t'as vraiment beaucoup de tomates? C'est ça la question. Mais peut-être... Puis les poireaux, tu peux avoir des poireaux, mais tu vas peut-être avoir des tout petits poireaux.
Fibreux.
C'est une bonne question. C'est une bonne question.
Les crucifères, moi, c'est ça, mon changement de transmission, là, puis même que j'ai abandonné, là, de la marde cette année, pas de choux, pas de brocolis chou-fleur. J'ai fait des choux de Bruxelles l'année passée. C'est une catastrophe.
Ah, mais ça, c'est une bonne piste. Les brocolis, avoir des beaux brocolis, c'est vrai que s'il y a des étapes qui sont pas faites, ben on n'aura pas de brocolis. Donc, ouais, ça pourrait être les brocolis. Brocolis, changement de transmission.
Si je suis le cours de l'Académie potagère, est-ce que tu me garantis que j'ai des brocolis à la fin de l'été?
Si tu suis le cours de l'Académie potagère, je te garantis que tu as des brocolis à la fin de l'été.
Oh là là, hey, c'est tout un statement, ça? Même s'il y a des bébites ou...
Non, il va te dire quoi faire, pas que t'en ailles.
Ben, attends, si tu suis les consignes, là, quand même. Si tu suis le cours, mais tu suis pas les consignes, là, ça marche pas. Là.
OK.
Ça prend un certain lâcher-prise comme enseignant, des fois aussi, parce que des fois, tu dis des choses, puis c'est pas nécessairement mis en application. Fait qu'après ça, ben, faut que les gens assument leurs décisions, là.
Oui, c'est vrai. Fait que finalement, peut-être qu'il était en train de m'aider à avoir une porte de sortie, PA.
Ben, un peu, parce que je connais Pierre-Luc, puis souvent, je dis des choses qu'il devrait faire, puis il fait pas. Fait que, tu sais, à un moment donné, regarde, c'est ça, tu peux pas gosser après un 8 pour qu'elle ouvre, là. Fait que,
ouais,
ben, tu passes à la suivante.
Ben, c'est un peu comme dire, est-ce que tu me garantis qu'avec ce plan pour remonter ma transmission, c'est sûr que je vais arriver à remonter ma transmission? Ben là, je peux dire, ben, ce plan-là, il... Oui, mais en même temps, peut-être que tu vas faire une erreur, tu sais. Donc, bref, la transmission, s'il y a des gens à la maison qui nous écoutent puis qui savent remonter des transmissions, sachez que moi, je sais pas comment monter une transmission.
Ouais.
Aidez-moi.
C'est pour ça qu'on a besoin de tous et chacun à son métier, finalement.
Exact.
Est-ce que faut-il être un hurlu-berlu là, pour penser qu'on peut avoir une certaine autonomie alimentaire en faisant de l'agriculture en ville?
Moi, j'ai quand même j'ai toujours un petit bémol à mettre quand on parle d'autonomie alimentaire ou quand on parle de est-ce qu'on peut atteindre l'autonomie alimentaire, parce que je trouve que c'est quand même très très large. Puis quand on regarde qu'est-ce qu'il y a dans nos garde-manger, qu'est-ce qu'on consomme, il y a pas que des légumes, il y a plein de choses. Fait que puis après, l'autonomie alimentaire, pour moi, c'est peut-être plus comme un chemin, une direction plutôt qu'un objectif ferme à atteindre. Puis, si les gens en ville peuvent atteindre une certaine forme d'autonomie, moi, je crois que oui, absolument. Peut-être pas dans toutes les cultures, peut-être quelques cultures. Il y a plusieurs environnements qui peuvent être utilisés. Tu sais, oui, des balcons, mais des toits, des bacs, etc., des devantures. Mais je pense qu'il faut aussi apprendre à modérer ses objectifs en fonction de nos restrictions, de nos contraintes qu'on a. Mais si on est capable d'être autonome en ail, en fines herbes, en herbe à tisane, ben on va pas cracher là-dessus, là. C'est incroyable, là. C'est super, là, tu sais. Allons-y avec ce qu'on peut, puis après ça, le reste, ben allons le chercher chez des sources avec des producteurs locaux qui font un super travail. Donc moi, je me dis, faisons le bout de chemin qu'on peut, chacun individuellement, puis ça va faire un bel impact collectivement.
Est-ce que dans dans tout ton processus, là, tu nous disais que tu avais appris sur le tas, as-tu une découverte, une invention de ta part? Si tu avais quelque chose à faire breveter dans tout ce que tu as appris ou développé, est-ce qu'il y aurait un truc ou un objet comme ça que tu ferais breveter?
Ben, moi, ce que je veux, en fait, c'est de rendre disponibles les outils qu'on utilise en production commerciale à l'échelle des jardins potagers familiaux. Puis ça se fait, là, puis ça c'est de plus en plus. Mais moi, je veux être un vecteur de ça pour que les jardins à la maison puissent avoir accès à du matériel de qualité professionnelle,
ouais,
mais plus petit, adapté à l'échelle, pour que ça soit pas juste du matériel qui brise après une saison, puis que ça soit du jetable, puis que ça soit des affaires cheap, puis etc. Je pense que tous les jardiniers et jardinières sont dans leur droit d'avoir accès à du matériel de qualité. Puis je pense qu'avoir accès à du matériel de qualité, c'est une partie de l'équation pour avoir du succès dans notre jardin. Fait que nous autres, on travaille gros dans cette direction-là aussi à l'Académie potagère. On travaille avec différents fournisseurs d'outils, d'équipements, etc., pour mettre de la pression pour qu'ils développent ces outils-là, parce que nous, on veut pas développer des outils, mais nous, on veut aider les autres à développer des outils, parce qu'on est en contact avec les jardiniers, donc on connaît leurs besoins, leurs contraintes, puis on veut que ça se matérialise. Puis de la même façon que Jean-Martin, par exemple, a intégré ça et a fait développer des outils pour le bio-intensif dans les 10 dernières années, ben nous autres, on veut faire ça pour les jardiniers à la maison. Puis on travaille déjà là-dessus, puis ça, c'est vraiment excitant.
Moi, je pense que la formation que tu as créée en tant que telle, tu sais, c'en est un truc là, tu sais, incroyable, là, tu sais, de réunir ce bagage à outils-là, puis de le transposer finalement à l'échelle du jardin. Par rapport aux outils que tu nommes, écoute, on reçoit aussi Geneviève Bessette de la Shop Agricole à l'émission. Puis je pense qu'elle est exactement dans cette direction-là, de prendre des outils commerciaux plus larges, de dimensions plus grandes, mais de la ramener à l'échelle finalement domestique. on les veut aussi, les filets d'exclusion anti-insectes, si on veut justement réussir nos crucifères. Mais ça les prend, là, finalement, ces outils-là. Fait que ça...
Filet d'exclusion? Oh. Hey, t'es tellement pas woke, man. C'est quoi cette affaire-là?
Tu connaissais pas ça?
Ben non, mais moi, j'oserais jamais parler dans une émission publique puis dire le mot exclusion. C'est tellement 2019.
Des filets d'inclusion des plantes qui vivent en dessous, tu sais, qui, c'est ça. Je sais pas comment rattraper ça. Tu me corrigeras.
Oublie ça, tu seras jamais capable d'être un homme blanc, toi.
Fait que, non, mais tu sais, c'est cool quand on a accès à des outils finalement qui fonctionnent bien, là, puis qui vont durer, comme tu dis, dans le temps, parce que sinon, le filet, s'il est déchiré après un an, ben là, c'est soit du plastique ou des matériaux qu'on jette, puis ça, c'est de la pollution, finalement, qu'on essaie d'éviter, là.
Absolument. Puis Geneviève, justement, a fait un super travail dans cette direction-là. On est en contact assez étroit, puis on veut que ces produits répondent de plus en plus, toujours plus à la clientèle, puis elle aussi est vraiment connectée avec la clientèle, donc c'est un super... On fait une super équipe.
Oh, une chance qu'on s'aime.
Cet épisode était une présentation de notre partenaire principal, le Réseau des fermières et fermiers de famille, qui est un réseau solidaire de producteurs maraîchers et de consommateurs soucieux de leur alimentation et de l'environnement. Merci au RFF de porter cette cause-là qui est tellement importante. C'est un geste de développement durable qui dure depuis déjà 25 ans. Merci d'exister et de faire partie de la solution.
Et merci à notre partenaire, le Fertifras, un fertilisant organique tout usage, 100% fumier d'insectes, 100% biologique et 100% québécois.